Nous sommes le lundi 26 mars et vous écoutez le 25e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société. Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. LudicBazar.com, c'est le choix, les prix, la qualité et plus de 14 000 références en stock. Du discount, du neuf et de l'occasion. Salut les joueurs, salut les joueuses et salut Jérémy.
Salut Olivier.
Tu vas ?
Oh, très bien.
Ouais, moi aussi, ça va bien. La pêche. Eh ben, happy birthday to you.
Ah, to you, Olivier.
To me. Happy birthday to us. Happy birthday to us, Proxy Jeux. Proxy Jeux a un an.
À peu près ?
Bah ouais, plus ou moins. Enfin, quand le.
Jamais, je ne retiens pas ce genre de date.
Eh ben si, ben là, ouais, je
ça fait un an que tu es sur iTunes.
Ça fait un an que le premier épisode a été mis en ligne sur iTunes. Alors à l'époque, on avait une illustration. Aujourd'hui, on n'en a plus. Je ne sais pas pourquoi. J'y travaille.
Sur iTunes, ouais.
Je m'arrache les cheveux. Bientôt, je serai chauve.
Il faut qu'on l'appelle Tim Cook directement.
Tim Cook. Bah, ouais. Ou alors un Ouija, tu sais, pour appeler Steve. Steve. Ah bah, est-ce que je reverrai mon illustration un jour ? Non. Ah ! Bon, ceci étant dit. Donc, plus d'illustrations sur iTunes, mais ça ne vous empêche pas de trouver notre podcast, ça ne vous empêche pas de nous mettre des gentils commentaires.
Sur iTunes.
Sur iTunes. Oui, oui, on ne peut pas en fait mettre des commentaires autre part.
Bah non, pas. On en parlera après. On va alors, remercier nos commentateurs.
Merci à Alex in Paris, qui apprécie visiblement la diversité de nos rubriques. Ça, c'est bien. Et merci à la Guilde du Jeu. Enfin, merci en fait à Gus, qui a conseillé à la Guilde du Jeu de nous écouter, et qui écrit que le podcast Proxy Jeux répond aussi bien aux attentes de novices qu'aux initiés, et ça nous fait super plaisir, parce que nous, on s'adresse aussi bien aux Suisses, qu'aux Belges, qu'aux Français, qu'aux initiés, qu'aux non-initiés. Donc ça nous fait super plaisir. Et alors, il y en a un autre, enfin, on a un commentaire qui, moi, me fait... je pense que je ne vais plus passer la porte, tellement je vais avoir... c'est le... Les chevilles qui enflent, comment on dit, la casquette, la grosse tête, ouais, c'est ça.
La grosse tête, Oui. Ça te fait trop de caca.
Bon, tu le lis, s'il te plaît.
Oui, il y a quoi, il y a Sam M aussi, oui, donc merci, voilà, Sam. Merci, qui dit merveilleux podcast et à écouter sans modération pour étancher sa soif de jeu. Bon, vous le savez déjà puisque vous nous écoutez, mais
oui.
Et merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Et dans la rubrique Il faut sauver le monde, donc on en met à 52 notes, donc il en manque 48 et d'ici le 21 décembre 2012. Il va falloir continuer à mettre des notes.
Malgré l'illustration.
Alors, parlez autour de vous pour amener plus de monde. Voilà, oui. Malgré le manque d'illustration, Proxy Jeux, par contre, on n'a pas perdu de nom. Vous pouvez nous trouver facilement dans iTunes. Voilà. Par contre, donc, sur Android, on se posait la question. On a beau chercher, on ne trouve pas une application qui soit aussi pratique qu'iTunes. Alors, Fundwell nous avait proposé Podcast Addict.
Oui.
J'ai essayé. Alors, ce sera mieux quand. Si un jour on est dans FreePod, on sera plus facile à trouver. Mais non, mais il y a un gros problème, cette application, c'est que contrairement à un iPhone où tu écoutes en tâche de fond, tu peux écouter ton podcast et puis faire autre chose sur ton téléphone, là, sur Android, tu quittes l'application, ça arrête le podcast. Hein.
Android, c'est pas multitâche.
Si,
ah, mince alors.
Si, mais cette application-là ne l'est pas.
Bon. Alors, on va continuer sur les remerciements. Merci à Basincast qui a relayé notre concours Sherlock Holmes de Détective Conseil. C'était très gentil. Écoutez numéro 27 avec Babozor, c'est très très intéressant, c'est un des meilleurs numéros qu'ils ont fait. Les gagnants du concours, justement, ils sont connus, une demoiselle et un jeune homme. Alors bon, alors le concours, il n'est pas sans défaut, certains nous l'ont fait remarquer. Néanmoins, je remercie encore énormément Istari de nous avoir permis de réaliser ce concours en nous mettant deux jeux à disposition. Merci énormément aux chasseurs urbains, qui ont vraiment fait un super travail avec une énigme vraiment immersive et qui a permis, je pense, à beaucoup d'entre vous de passer un bon moment. Et puis, merci beaucoup à vous. Vous avez été très nombreux à y répondre. On a rempli le contrat, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça a marché. C'était un concours hors norme. Et voilà, je suis dans la boîte. C'était un concours, c'est pour ça que je bafouille depuis tout à l'heure. Donc, merci à tous. Et on est en train de réfléchir à un autre concours qui, cette fois, fera certainement appel à un appareil photo.
Ah.
On est en train de goupiller ça et on va voir si ça peut marcher. Donc, voilà. Donc, ça, c'est. On s'arrête jamais chez Proxy Jeux et le prochain truc, ce sera ça.
Oui, il faudrait peut-être penser aux vacances un peu.
Ouais, j'y pense. J'y pense, ça va me permettre de pouvoir chercher les docs sur mon illustration iTunes et puis. Enfin bon. Passons. Parlant de podcast, excusez-moi, je vais vous embêter encore une minute ou deux sur ce sujet. La radio des jeux, qu'on croyait un peu mort cliniquement, bah on en a vu des petites pics d'activité. La radio des jeux est de retour avec Arnaud Urbon en guest star, et ça, c'est super sympa.
J'aime Arnaud Urbon, auteur et éditeur avec Ilopéli.
Alors, juste, les gens de la radio des jeux, si vous m'entendez, n'ayez pas peur de vous décrisper un peu. On était comme ça quand on a commencé. Et donc
c'est le deuxième numéro.
Oui, mais alors, en parallèle, Guillaume Montiage également reprend du service, et ça, c'est une hyper bonne nouvelle. Alors, il ne va pas vous parler de jeux de société, il parle de... Il parle de tout ce qui est un petit peu bizarre. Alors, nous, on appelle ça les WASF. Ça s'appelle l'Improbable Podcast. C'est sur www.improbablepodcast.fr, Improbable Podcast tout attaché. Alors là, au contraire, c'est super dynamique. Tu vois que c'est quatre copains qui parlent ensemble. Et pour ceux qui connaissent l'apéro du Capitaine Web, c'est une sorte de WASF-like. What the fuck?
Oui, oui, on en a déjà parlé.
Ce qui peut arriver dans ce monde merveilleux aujourd'hui.
Mais, les aliens, tout ça.
Ah, mais pire encore. Oh, une histoire avec...
Des trucs pas soft.
Ouais, une histoire avec des gens qui se tirent dessus au taser, ou, et puis c'est un sport en fait, ou des gens qui ont des trucs dans qui mettent des furets dans leurs pantalons.
C'est pas ce qu'il y a déjà tous les soirs sur M6.
Alors leur source, c'est un peu W9 et NTR.
Ouais, bah ouais.
Enfin bon, Guillaume Montiage est passé dans la cave du capitaine, et on sent que ça l'a marqué. Pas de pute ni de poney. Voilà. Donc, c'est constitué de news, d'un dossier, et alors ils ont commencé en fait une histoire radiophonique. J'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup Guillaume, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire. Donc, n'hésitez pas. www.improbablepodcast.fr.
Combien de temps un podcast ?
Une heure et demie.
Non, ça va, ça va. C'est duré correct pour un podcast.
Tous les 15 jours, oui, tout à fait. Ah, mais moi, la norme, c'est une heure et demie, deux heures, quoi.
Ah, ouais, ouais.
Voilà. Et on a oublié quelque chose.
Quoi ?
Bah oui, on n'a pas parlé de l'application Proxyjeux.
Bah oui, c'est ça.
Bah parle dans ton micro, parce que là j'ai...
Ah pardon, oh pardon, je croyais qu'on discutait entre nous.
Voilà, l'application Proxyjeux. Alors, un petit truc, c'est pas réservé qu'aux Français. Si vous êtes belge ou si vous êtes suisse, vous trouverez des événements et vous trouverez des lieux qui sont belges et suisses. Et si vous savez qu'à côté de chez vous, il y a une boutique sympa, une association qu'il ne faut pas rater... Eh bien, dites-le nous, comme ça on la rajoutera et on aura quelque chose, une base un peu plus fournie.
Et si vous êtes dans le fin fond du Jura et que vous ne trouvez pas de lieu...
Non, il y en a. Il y a W Place.
Oui, maintenant il y en a un. Mais sinon, bon, créez-en un.
Voilà. Ah, au fait, c'est un message personnel pour Martin Wittberg. Il me semble que si la radio des jeux serait très heureux de t'interviewer, de t'avoir comme invité. Donc n'hésite pas à leur faire un mot. Voilà, c'est un message personnel à Martin Wittberg. Voilà, donc l'application Proxyjeux, quand vous entendrez ce podcast, j'espère qu'elle sera également disponible sur iOS. On communiquera un petit peu plus largement sur cette application une fois que ce sera universel.
Oui, on va dire ça comme ça.
Et au programme cette semaine, une actualité très chargée.
Ouais, on fait le tour notamment de pas mal de sorties sur vos étagères ou en approche.
Oui, on va parler de Small World, de Stupide Vautour, de Fantôme contre Fantôme, d'Onirim,
de Trajan,
de Keyflower,
Pirates of Punish Main.
On va parler d'Agricola pour deux joueurs, ce qui me donnera l'occasion de parler d'Agricola.
Et puis, je vous parlerai également de Québec.
Et puis, ce soir, nouveau segment, le jeu de société expliqué à ma grand-mère.
Et puis il y aura également une petite intervention de Gus que nous avons le plaisir de retrouver.
Notre sponsor qui ne manque pas aussi de faire le buzz en ce début printemps.
Et une partie écran aussi assez chargée avec pareil pas mal d'annonces de nouveautés.
Beaucoup, beaucoup.
Et on revoit surtout en détail, donc sur iPhone, iPad, désolé pour les Android maniaques, la guerre des roses de Birken.
Et l'armée de grenouilles, Army of Frogs, sur iPhone et iPad. Et maintenant, les actus, l'actualité très très riche en ce moment.
Et en bref, s'il te plaît, Olivier. Hein,
et en bref.
Pas comme l'intro. Hein.
Mais non, mais il y a beaucoup de choses. L'actualité, c'est pas que le jeu, c'est aussi les applications, c'est aussi les podcasts. C'est, on vit une période 2.0 formidable. On est même peut-être passé en 3.0 avec le podcast.
Bon, comment tu comptes?
Bah, le 2.0, c'est le participatif quand les gens étaient sur les forums. 3.0, c'est maintenant les gens prennent le micro et ils s'expriment.
Ouais, c'est 2.0 aussi avant. Ou non, c'est comme le 1 en fait. Le 1, c'était tu prenais un site et puis tu parlais face à tout le monde. C'est un peu ça le podcast. Le jour où, en même temps qu'on parle, on a tout le monde qui vient nous répondre, ça va être un peu le bordel.
Eh bien, écoute, tu fais bien de le dire. On va relancer une petite.
Le podcast 2.0.
Non, on va relancer un podcast en live. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On se sent mieux. On est plus détendu du slip.
On va encore être l'horreur.
Donc, on va faire ça. Allez, c'est dit.
Non.
Moi, je veux passer en 2.0. Ah oui, tu devrais pas taper sur la table.
Ça va être l'horreur.
Ouais. Enfin, on verra.
Avec plein de micros. Vous aurez tous avec Skype en même temps.
Ah non, je sais pas.
Ah, il va souffrir là.
Non, je sais pas si on peut faire ça. Bon, bah si on peut le faire. Enfin, alors.
On va y réfléchir. On va en parler.
Non, ça, c'est une super idée. Ça, c'est une super idée. Bon, écoutez, on va y réfléchir et puis on vous en parle un peu plus tard.
Ah oui, sinon, je vais être malade avant l'heure.
Alors, les actus.
Alors, Olivier, on va commencer par une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, ouais. C'est Alien Frontiers qui n'arrivera pas chez Hystari.
Tu es médisant parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui aime Aliens Frontier.
C'est qui beaucoup de monde?
Ben, je sais pas. dans notre timeline, il y a beaucoup de gens qui apprécient ce jeu.
Oui, les gens aiment les jeux de dés finalement. Mais le Yams, c'est pas mal.
J'ai appris que je crois savoir que les Châteaux de Bourgogne, c'est aussi un jeu de dés.
Ouais, mais trois aussi, mais ils sont plus subtils.
Voilà.
Aliens Frontier, on en avait parlé rapidement l'année dernière. C'était pas. Le problème, c'est que tu rates ton départ.
Alors, il y a ça. Jouer à trois. Quand tu es dernier et que tu n'as pas je ne sais plus quelle séquence de dés, tu ne peux pas avoir ton dé supplémentaire.
Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Le gros défaut du jeu, c'est celui-là.
Et moi, ce que je disais, c'était que je trouve que Alien Frontier, c'est quand même c'est trop gros pour ce que c'est ou pas assez fouillé. Mais bon, après, c'était juste une présentation. Bon,
après, je ne sais pas pourquoi il est pas chez Hystari. Peut-être c'est parce qu'un autre éditeur là ou parce qu'il s'est rendu compte que.
Oui, ou peut-être qu'il a un petit peu beaucoup de travail.
Ouais. Alors, justement, parce qu'en fait, autre annonce. Alors, c'est l'arrivée.
Le corollaire.
Je ne sais pas. Je n'utilise pas des mots compliqués.
C'est pas faux.
Ah, voilà, exactement. Non, c'est l'arrivée de Serenissima chez Hystari, qui est annoncée pour le mois de juin. Donc Serenissima, je vous rappelle, c'est la refonte, on va dire, de Méditerranée, qui était sortie chez Eurogames il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, de Dominique Carra, et qui avait retravaillé. Oui, il est sorti en 94, donc presque 20 ans. Et qui avait retravaillé un petit peu son jeu, etc. avec Cyril, il a été annoncé pour fin 2011. Il faisait partie des jeux oubliés de 2011. Et donc, il arriverait normalement en juin.
J'avais mis un petit pitch de Méditerranée.
Un pitch de Méditerranée.
Un synopsis, quelque chose de...
Alors, c'est un... Comment je veux dire?
Un pick-up and delivery.
Ouais, c'est ce qu'on dit.
Bah quoi?
Oui, c'est
tu vas charger des marchandises quelque part et tu
les amènes... dans son contexte, à l'époque, c'était hyper novateur. C'était un excellent jeu.
Ouais.
C'est un format quand même qui est long. Qui marquait 2 heures, mais on va facilement à 3 heures, à 4. Oui, où il faut aller, on dirige 4 puissances de la Méditerranée et qui doivent aller chercher, donc ils vont faire du commerce d'épices, de bois, de fer, etc. Et on a le choix en fait entre armer ses galères pour aller attaquer les galères adverses ou bien faire simplement des galères marchandes. On peut faire un peu des deux également.
Ouais,
c'est très riche, c'est beaucoup de négociations entre les joueurs. C'est à la fin, les derniers tours deviennent super tendus, et donc a priori, ils ont changé un petit peu ces aspects-là, où à la fin, le plateau de jeu était complètement paralysé. Mais moi, c'est un jeu que j'ai adoré à l'époque. Donc voilà, donc Méditerranée, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs.
Pardon, Serenissima.
Serenissima, oui, a priori. Serenissima. En fait, c'était le nom allemand, plus de Méditerranée, chez Eurogames.
Mais c'est surtout le nom que Dominique voulait donner.
Dès le départ.
Ouais.
Ouais. Voilà, et donc c'est un jeu, Serenissima, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour bien au moins 2 heures.
Il risque d'être un peu cher, parce qu'il risque que c'était déjà une grosse boîte.
À l'époque, c'était déjà une grosse boîte, il fallait déjà 2 heures pour remettre tous les petits autocollants sur les bateaux.
Ouais.
Toi qui aimes bien Dread Fleet, Olivier, je pense que c'est pour toi. Ce sera, ouais, je sais pas, ce sera peut-être une 50aine d'euros, 40-50 euros, je pense. Et voilà, en juin, patience.
Et moi, de mon côté, je voulais vous parler de Keyflower. Keyflower, ça doit te rappeler quelque chose, Jérémy.
Woodstock?
Non. Et si je te dis Cathedral?
Ah, c'est Richard Breeze.
Ouais, Key Harvest, Cathedral.
Riff and Counter. Ah, merde.
Oh,
il n'y a pas Key dedans.
Riff and Counter, non, ça ne marche pas.
Non.
Donc, Richard Breeze a lancé toute une série de jeux. C'est un peu comme My Witty, Witty Chronos et Witty... je sais pas quoi. Mais là, c'est qui Harvest, qui Flower, voilà.
Ah, comme les Grecs chez Hystery, quoi.
C'est ça. C'est la marque de fabrique. Et ça se trouve, ça y a.
Il fait quoi en fabrique?
Faut que je regarde que si ça n'a pas une signification.
En fait. Et on fabrique une cathédrale en fleurs.
Il y a 15 jours, on vous a parlé de Genesia. Et on vous a dit que Genesia, c'était pas un jeu de société, c'était plutôt un jeu de gestion à la Settlers sur iPad et qui avait une réelle profondeur. Et là, quand j'ai lu le descriptif de Keyflower, ça m'a réellement fait penser à Genesia. C'est-à-dire qu'on va retrouver, comme dans Genesia, les saisons. On va retrouver une sorte de village avec 8 travailleurs et on va gagner des points en fonction des tuiles villages qui seront mis aux enchères et qu'on va pouvoir récupérer et sur lesquels on va pouvoir poser ces travailleurs. Et en automne, on a des travailleurs qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a ce genre de background. Je vous renverrai sur le site de Richard Brise ou sur un autre site sur lequel vous pourrez trouver plus d'informations sur Keyflower. C'est une série a priori ultra limité comme toute la série des Key machins. Il y en a certains qui ont été réédités comme...
Riff and Counter a été réédité.
Demetra,
c'était...
Qui était Key Harvest.
Ouais, c'est ça.
Qui est un super bon jeu d'ailleurs.
Même Cathedral, elle a bénéficié d'un gros tirage après.
Ouais, mais dans un premier tirage, c'est vraiment très 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 peu important. Il en fait 1000 ou 1500.
Même pas.
800 ?
Oh, je pense, ouais.
C'est mon dernier mois.
Peut-être qu'il va en faire 800. Et c'est ta dernière offre.
Ouais, c'est ma dernière offre. Et en fait, elles sont pratiquement toutes récupérées. Tous les 800 sont récupérés à Essen. Donc, vous pouvez pré-réserver à une adresse email pour Essen 2012 votre exemplaire de Cathedral.
Dans 7 mois.
Oui. Mais on n'est jamais trop prudent, tu vois. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Est-ce qu'on peut déjà réserver sa table pour l'essayer tant qu'à faire avant ? Parce que dans ces cas-là, on va faire ça.
Et vous pouvez le faire ramener par des gens qui se vont à Essen. Ça m'a fait penser à Genesia. N'hésitez pas à aller voir le descriptif. Et puis si ça vous fait envie, vous le précommandez.
Et puisqu'on parle d'Essen, moi je vais rebondir sur. Enfin, je reviens sur Essen 2011. On vous avait parlé à notre retour de Trajan. C'est dans le numéro 22, Trajan, qui a été un jeu qui avait bien buzzé.
Le jeu qu'on ne trouverait plus nulle part quand, une fois que tu l'as acheté.
Si, on doute. Ouais, c'est ça, exactement. On l'a pas retrouvé pendant 6 mois. On le voit là maintenant. Il arrive en français un peu partout, et au même prix en plus qu'il était à Essen.
Et on ne se doutait pas que Gigamic allait le récupérer.
Ouais, on pouvait quand même penser qu'il serait redistribué par quelqu'un quand même. Donc c'est le jeu de Stefan Feld. Alors attention, c'est du Stefan Feld un peu costaud, hein, pour ceux qui aiment bien Stefan Feld avec les châteaux de Bourgogne, que nous n'avons toujours pas essayé à Proxy Jeux, ou bien... qu'est-ce qu'il a fait d'autre, des Luna, etc. Là, c'est quand même du pouce-pion. Hein, vraiment, c'est du jeu avec des cubes en bois partout. Mais c'est quand même...
C'est du hard fun.
Ouais, c'est ça. C'est quand même ça. C'est-à-dire que le jeu est très froid. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Il y a plein de façons de marquer des points de victoire, mais il y a quand même beaucoup de réflexion pour bien organiser ses tours à l'avance, bien organiser ce qu'on joue en déplaçant ses cubes comme un Awele, pour ensuite décider les actions qu'on fera les tours prochains. Donc ça demande un petit peu d'anticipation sur 2-3 tours. Avec toute l'interaction évidemment avec les autres joueurs, ce qui n'est pas simple. Voilà, mais c'est un. Si vous aimez les cubes en bois, les jeux froids.
C'est quoi la news déjà ?
C'est Trajan, il est distribué en français et il est débarqué dans les boutiques un peu partout.
D'accord, très bien.
Je suis comme ça, moi. J'annonce les jeux qui sortent dans les boutiques et pas les jeux dans 7 mois.
Non, mais attends, c'est très limité. Il faut. Tu peux précommander maintenant, t'envoies un mail et puis.
J'ai déjà noté pour dans un an, on pourra parler qu'il est distribué en France.
On ne sait pas par qui. Donc, voilà. Jérémy, est-ce que comme moi, tu as bénéficié du déstockage de tous les boosters Pirates of the Spanish Main?
Ah oui, j'en ai acheté quelques-uns, j'avoue. C'était
quelques boîtes.
Tentant, oui.
Ah, ouais. Pirates of the Spanish Main, c'était un jeu à collectionner de bateaux pirates. Donc on avait des bateaux dans des boosters.
Ouais, en plastique, assemblés.
Voilà,
à assembler, ouais.
À puncher et assembler. Il n'y avait pas que des bateaux, il y avait aussi des pirates, il y avait des trésors, il y avait parfois des îles.
Bonus, ouais, en plus.
Et c'est mort, en fait. C'est-à-dire que ça part en fait à son public, ou alors c'est un peu comme tout ce qui était à collectionner, comme Guardian ou Netrunner.
C'est sorti en deux. Ouais, malheureusement.
Ça a duré 4 ans, quoi. 4 ans, avec beaucoup d'excès.
Oui, c'est un des jeux qui a marché, justement. 4 ans, c'est beaucoup, quoi. C'est pas mal. Ça a bien marché, Pirates of the Spanish Main.
Eh bien, Pirates of the Spanish Main n'est pas réédité.
Il revient pas? Ah, j'ai cru que t'allais me dire qu'il revenait.
J'aurais pu. Ah, oui. J'aurais pu. Mais non. Non, en fait, à la place, ils ont sorti The Card Game.
Un jeu de cartes évolutif.
Pas évolutif, mais Pirate of the Spanish Man, The Card Game.
Et pas un Dice Game, ça va venir après.
Eh ben oui, c'est comme un peu Rise the Dice Game. Ou, voilà, c'est, voilà. Donc, si vous aimez le thème, si vous avez aimé jouer à Pirate of the Spanish Man, eh ben Whiskid va ressortir Shuffling the Deck, Pirate of the Spanish Main. Donc, dans quelques mois, dans vos boutiques préférées, et peut-être un jour en français.
Un jeu à succès, sorti en 2003, finalement, on est dans plein de trucs.
Oui, c'est l'actu.
C'est l'actu, on fait du neuf avec ce qui a marché avant.
Ah, oh, ça c'est intéressant. Ouais, c'est donc super intéressant ce que tu veux dire.
C'est top. Ouais, alors, un jeu qui a 10 ans, bientôt.
Donc, tu veux
et qui va enfin bénéficier parce que. Quoi ?
Tu veux pas savoir pourquoi c'est super intéressant ?
Ce que je viens de dire, non, c'est toujours intéressant.
Je vais spoiler, en fait, Jeremy n'a pas encore entendu l'intervention de Gus. Gus qui nous parle d'innovation. Et
le
qui
jeu
est tout à fait en ligne avec toi, Jeremy. Bon, ça c'était une aparté, vas-y. Ah, 2003, j'avais. J'avais 8 ans.
T'étais pas vieux,
ouais. J'avais 8 ans.
8 ans. Incroyable. Déjà précoce. Alors, le. Donc il y a une dizaine d'années plutôt, non c'est pas 8 ans, hein. 2003, c'était la sortie de La Danse des œufs de Roberto Fraga chez ABBA, un jeu pour enfants mais que je recommande très particulièrement pour des adultes plutôt, où on s'amuse à se jeter des œufs qu'ensuite il faut garder sous les aisselles, sous le coude, sous le menton,
entre les genoux,
sans faire tomber un œuf, ouais, entre les genoux, histoire de, et qu'il faut courir autour de la table par exemple ou crier cocorico. Bref, c'est un jeu très fun. Et mais qui était vendu dans
une boîte d'œufs. Par contre, je suis pas sûr, excuse-moi, que tout le monde ait bien compris le concept.
Non, c'est
le concept, c'est qu'on lance 2 dés.
Je veux pas tout, oui.
Ah oui, mais pour un jeu comme ça, on peut quand même. Alors, si vous n'avez pas la danse des œufs, il faut l'acheter. Après, il faut avoir des amis et surtout un appartement assez grand et sans trop d'objets fragiles.
Dans le jardin, c'est là où il y a le moins de place et on se laisse le moins.
C'est ça. Et l'idée, c'est qu'on va lancer 2 dés. Un dé va dire ce qu'on va pouvoir faire. Donc,
l'action pour gagner l'œuf.
On va pouvoir créer Cocorico, pouvoir attraper l'œuf. Le premier qui attrape l'œuf.
Il faut le jeter, l'œuf, qui rebondit.
On peut le jeter parce que les œufs sont en plastique, caoutchouc.
Ouais, on joue avec des œufs, ouais.
Sauf l'œuf en bois. Alors ne jetez pas l'œuf en bois, ça ne marchera pas. Et le deuxième dé va vous dire où est-ce qu'il faut le mettre. Donc entre les cuisses, sous les aisselles. Voilà. Et donc après, c'est super fun. Mais c'est du Fraga, donc forcément c'est super fun.
Ah, c'est un jeu qui est vendu une quinzaine d'euros, que vous trouvez dans toutes les boutiques.
Mais par contre, c'est pas une actu, ça.
Si, parce que. Non, c'est pas une actu, c'est vrai, c'est un jeu qui a 10 ans, qui est sans doute la meilleure vente de Fraga depuis 10 ans. Mais la boîte en carton est une boîte d'œufs comme on a dans les supermarchés.
Oui.
Elle était fragile, elle se déchire avec le temps, etc. Oui. Et donc du coup, ABBA décide quand même. Alors il faut savoir qu'ils ont déjà renouvelé plusieurs fois la façon de fabriquer les œufs en 10 ans. Je crois qu'ils en sont à la troisième façon
c'est
de les fabriquer. Ouais, la première version, ils étaient tout mous, ça rebondissait pas aussi bien que maintenant. Tel point que j'ai remplacé.
Ah, j'ai pas la première version.
J'avais remplacé. Ah, j'ai donné ma première version. J'ai remplacé. Ils sont mieux, les nouveaux œufs.
Tiens, je t'offre un jeu.
Ah, tiens, j'ai reçu la nouvelle. Par contre, j'ai gardé la boîte de la première version parce qu'elle était signée de Roberto. Et.
Roberto.
Je 36-15, je raconte ma vie.
Normalement.
Mais donc, justement, cette fameuse boîte, elle se déchire parce qu'elle est fragile. Et donc, va la renouveler. Ils annoncent une boîte renforcée.
En métal ? Une boîte métal.
Une boîte métal qu'on peut se jeter. Ah non. Mais c'est prévu pour 2013, donc un petit peu de patience. Ce sera sans doute la version jubilée ou je sais pas, pour les 10 ans.
Pour les 10 ans. Alors, il faut savoir un truc. C'est-à-dire que si vous avez des jeux ABBA et que vous avez perdu ou cassé des pièces, je ne sais pas si on peut casser des pièces. Alors si, pour Burg Ritter, les Chevaliers de la Tour, ça je l'ai déjà dit, on a un élastique. Je répète, mais c'est bon à savoir. C'est super bon à savoir.
C'est une bonne nouvelle.
Vous pouvez demander sur le site d'ABBA des pièces détachées. Et ils vous les enverront. Et ça, c'est super classe. Donc, n'hésitez pas. forcément. Demandez votre boîte d'œufs. N'attendez pas la réédition. Vous pouvez, vous aussi, avoir une belle boîte d'œufs toute neuve. Bon, après, c'est super bizarre parce qu'en fait, c'est une vraie boîte d'œufs où tu colles l'autocollant de la danse des œufs. C'est un peu.
Est-ce que tu en as reçu une, toi ?
Mais moi, je l'ai chopé. Je l'ai demandé à Essan et ils me l'ont envoyé chez moi.
Et donc, t'avais l'autocollant d'un côté et la boîte d'œufs ?
Ouais, c'est ça.
Que j'ai toujours envoyé, fait l'autocollant, puis t'as mis sur ta boîte d'œuf.
Non, parce qu'elle est déchirée.
Non, mais sur une autre boîte d'œuf du commerce.
Ok. Mais.
C'était bien, c'était. Non. Faites des omelettes. Donc, ne jouez pas avec des œufs réels. Hein.
Alors, la danse des œufs, c'est pour 2 à
4 joueurs. Non, 4. Après, on peut mettre 2 boîtes pour jouer jusqu'à 8.
Waouh.
Alors là, bonjour le bordel. Hein.
Avec. Ouais.
Et parce que quand les 8 joueurs tournent autour de la table, je n'ose pas imaginer.
C'est à peu près une vingtaine de minutes, 10 minutes.
Oh ouais.
Et jouer...
À partir de 5 ans.
Ouais.
Je conseille plutôt à partir de 25.
Et par contre, on s'arrête à 45-50 ans. Parce qu'il ne faut pas de... il faut pas de...
Ah, mais il y a des
faut
gens...
pas d'accident.
Il y a des gens qui tombent, quoi. Ouais, c'est les chaises qui volent, quoi. Ça fait partie du jeu.
Perplexus, ce sont des boules. Il y en existe trois. Il y en a une qui est Perplexus original qu'on va trouver chez Yellow. Qu'on va trouver facilement chez Yellow, en fait. On a une version, c'est comment déjà, la version pour les enfants ?
Rookie.
C'est ça. On a une petite boule avec moins de parcours et qui sont plus faciles, la version rookie. Et à partir d'avril prochain, va arriver en boutique la version épique. Alors, qu'est-ce que c'est la différence ? Il y a plus un parcours qui est plus long, la boule est plus grosse. Et surtout, alors que dans la petite boule, vous avez des rails qui vont vous guider pour mettre votre boule là où il faut. Là, vous aurez non seulement des morceaux de plastique, enfin, des rails, enfin, des routes qui n'ont pas de bord, et en plus qui sont penchés. Oui.
Comment tu...
Eh ben, tu te débrouilles.
Tu as plusieurs départs quand même, comme dans le mode original.
Ouais. Tu peux, t'as des points en fait, des points de sauvegarde.
Checkpoint.
Et donc tu vas pouvoir recommencer en plein milieu si tu t'es trompé.
Parce que dans le rookie, il y a 70 points de passage et il y a pas de checkpoint. Tu peux toujours repartir à zéro si tu t'es raté.
Et oui, mais bon, ouais, ça va. Mais non, mais dès l'original, tu vas pouvoir avoir des, tu as trois départs différents et pour l'épique, je ne sais plus combien, mais tu.
Tu l'as fini?
J'ai fini le rookie, je n'ai pas fini l'original.
Oh. C'est pas sérieux. Non. Et donc le epic, t'es allé jusqu'au trou
Je sais pas.
3. 4.
Epic. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, tu commences par le trou numéro 1, puis tu t'avances un petit peu, puis tu trottes. Alors après, tu reviens, tu recommences en milieu de parcours. Quoi.
Comment ça? Oui, mais quand t'es déjà allé au milieu du parcours.
Non. Mais ça t'est jamais arrivé de... C'est un cheat code en fait. Tu rentres le cheat code et j'arrive.
L'original, je l'ai fini, mais en fait assez rapidement finalement. Alors que je te disais que ces jeux, c'est pas fait pour moi, finalement, si.
Ouais,
tu te poses, en fait, c'est ça. Tu te poses 5-10 minutes et puis tu progresses un petit peu.
Donc on vous en parle, c'est un peu. C'est encore quelque chose dont on vous parle souvent. C'est un must-have et ça fait partie de tous ces jeux qu'on laisse sur les meubles. Comme Cubulus, comme des choses comme ça. Super pour faire venir le...
Il faut avoir beaucoup de buffets chez vous.
Ouais.
Ah, chez moi, c'est des étagères qui sont déjà jusqu'au plafond. Avec des
mais non, mais tu le laisses sur ta table, tu laisses traîner sur ton chevet. Voilà, quoi. Voilà, donc Perplexus Epic, ça va être entre 25 et 30 euros, disponible début avril dans toutes vos bonnes boutiques.
Ça fait un petit moment que Days of Wonder nous avait pas sorti quelque chose pour Small World. Eh bien, ça arrive. Alors, il y a eu Small World Underground l'année dernière, et ils nous annoncent pour juin, donc pareil, à peu près un an après, Small World Realms, donc les royaumes, on va dire, de Small World. C'est une extension, on va dire, de plateau modulaire. Donc, ça propose 48 tuiles de terrain, dont 26 sont hexagonales. Alors, ces tuiles, elles pourront s'agencer ensemble pour proposer, du coup, un nouveau plateau à chaque partie. La bonne idée, c'est qu'elles sont... imprimé des deux côtés, donc d'un côté c'est les terrains Small World classiques et de l'autre côté c'est Small World Underground.
Oh.
Et chaque tuile donc, elle est divisée en fait en trois régions.
Enfin, c'est une double bonne nouvelle. La première bonne nouvelle c'est que c'est un plateau modulable, contrairement au premier jeu.
Ouais, enfin avant d'avoir fait le tour du plateau, il fallait quand même y aller parce que tout l'intérêt du jeu c'est le renouvellement sur tous les peuples. Donc fait que...
Ouais, mais en fait ça renforce. En fait, quand j'ai lu la news, je me suis dit que ça allait renforcer le choix de certaines tribus. C'est-à-dire en fonction de la géographie que tu vas créer en début de partie, eh ben, ça va renforcer vraiment l'intérêt de certaines.
Ah oui, tu peux par exemple faire une chaîne de montagne,
tu
pourras faire des choses comme ça. Alors je ne sais pas si tu le feras de façon aléatoire ou bien s'il y aura des cartes proposées par défaut.
Ou alors une appli.
Oui, une application.
L'application de... Shuffle.
Un Small World Dreams Shuffle. Ouais, mais si c'est des offres, ils vont nous le vendre encore 1,59€. Avec
l'extension. Non.
Il faudra payer les extensions. Voilà, tu paieras la tuile en in-app.
C'est 0,79€. Et après, tu payes 4 fois 0,79€. Bon.
Oh là là, cela dit, donc Monsieur Olivier ce soir.
Cela dit, moi ça me fait plaisir parce que j'ai pas Small World Underground et que ça va peut-être me pousser à acheter. Mais attends, il y a les deux en fait en recto verso.
Ouais, du coup, ouais, c'est voilà.
Oh, c'est excellent.
Bah ouais, je pense pas que j'achèterai Underground parce que je pense pas que ça renouvelle tant que ça le jeu. Par contre, ça, je pense que ça renouvelle.
Ouais, c'est clair.
Et j'ai justement joué encore à midi. Et bah finalement.
À Underground.
Non, à Small World.
Sur iPad.
Non, bah, on aurait dû. S'il y avait eu l'iPad, on aurait dû, parce qu'on était deux. Mais moi, c'est très très bien. C'est toujours si bien, quoi. J'aime beaucoup. C'est marrant d'ailleurs, un jeu comme Vinci, parce qu'à la base c'était Vinci quand même, qui finalement était sorti que dans cette version. Comment Days of Wonder a réussi, juste en changeant le thème, etc., à bah, faire que le jeu vive, en fait, parce qu'il y a régulièrement des extensions qui viennent relancer l'intérêt du jeu, à créer des nouveaux peuples. C'est super bien. Moi, j'aime bien un jeu qui vit comme ça. Mmh. Quand c'est un bon jeu, hein.
Ouais. Ok.
L'inspiration chez Olivier.
Non, mais après, c'est... Je me demande...
C'est le but des extensions.
En fin de compte, ça va, je pense que ça va être le fil rouge de cet épisode-ci. C'est à quel point le jeu est changé et relancé et modifié, enfin, évolue en fonction de ces extensions.
C'est vrai, c'est encore un vieux jeu qui date du siècle dernier, qui a été revu.
Et puis, c'est un peu comme un caoutchouc que tu étires, étires, étires. Au bout d'un moment, il n'a plus de consistance, quoi.
C'est comme un chewing-gum, quoi.
Un chewing-gum. Et là, bah, tu dis, OK, bah, Small World Underground, c'est déjà le même jeu, mais avec un peu plus. C'est exactement les aventuriers du rail. On met des gares, on enlève les gares, on met des passagers, on met des yetis.
Mais des Fonda sont très forts pour faire ça. Ouais. Mais ils le font bien. Non. Les gars, Mémoire 44.
Ouais, c'est clair. Bon, et puis chez Gus & Co, c'est incroyable.
La production
c'est ça.
D'extensions, d'aides de jeu.
Ils ont sorti Small World Tribes, qui introduit une règle qui est une règle de. Ça rend le jeu semi-coopératif, puisqu'il va y avoir une tribu d'indigènes que les joueurs vont devoir contrôler. Enfin, je ne dis pas contrôler en disant je vais les jouer, mais qui vont contrôler leur progression. Parce que si ces tribus indigènes. Se trouve sur un certain nombre de tuiles, la partie est perdue, mais pour tous les joueurs. Donc c'est rigolo. Là encore, il y a une évolution dans le jeu. Ça se joue facilement avec Small World ou Small World Underground et 2D à 6 faces. Donc vraiment, c'est super facile. Et puis la création d'un peuple avec 10 ou 11 jetons, et voilà.
Il faut quand même qu'un jour Gus nous dise comment il fait pour trouver le temps et surtout l'inspiration pour sortir autant d'extensions, autant de.
Alors,
plein de jeux divers et variés.
Le temps, je le laisserai répondre.
Oui, le temps, je sais qu'il peut en disposer, mais l'inspiration.
Mais l'inspiration, je pense qu'il est, c'est juste quelqu'un qui est, voilà, qui est très inspiré.
Pour une courte présentation de Small World, on vous renvoie au dossier qu'on avait fait sur les jeux.
Le guide d'achat de Noël.
Voilà.
C'est ça.
Il s'appelle Quelques idées de cadeaux de jeux pour Noël 2011.
Alors, c'est 2011. Hein. En 2012, ça sera peut-être autre chose.
Il va falloir refaire un guide de Noël.
Bah oui.
Ah, c'est les mêmes. Prenez 2011.
Non, mais justement, on fera peut-être un guide de Noël avec que des nouveautés. Peut-être, ou peut-être pas.
Et chez Philosophia, il y a aussi Equilibrium qui est sorti. Ah, forcément, vous vous demandez pourquoi on parle d'autant de sorties en ce moment, là, c'est parce que ça y est, on est parti dans la nouvelle. Les éditeurs préparent massivement, enfin, c'est les sorties du printemps, de l'été. Donc, Equilibrium est arrivé début mars dans les boutiques. Alors, Equilibrium, c'est un jeu, c'est la suite d'Onirim. Onirim, c'est un jeu de cartes pour un joueur. Enfin, il y a une règle pour jouer à deux, mais c'est avant tout pour jouer tout seul. Ça fait partie de ces jeux pour un maintenant qui sortent pas mal. D'ailleurs, ils aiment bien chez Philosophia, c'était déjà fait vendredi. C'est une sorte de réussite.
Excuse-moi, Onirim, c'est sorti avant.
C'est sorti avant, mais c'est toujours chez Philosophia, c'est des jeux pour un joueur.
Non, parce que tu dis, ils avaient déjà fait vendredi. Ils ont fait Onirim et après ils ont fait vendredi.
Oui, pardon.
Soyons précis,
il
monsieur.
Il faudrait pas se méprendre, n'est-ce pas? Bon. Donc Onirim, c'est un jeu de réussite.
Shady Torbay.
De Shady Torbay.
Ouais.
Voilà, je pourrais pas vous dire c'est un homme, une femme, de quelle nationalité. Bien.
Alors, il a une moustache, il a des lunettes. Ouais. Qui est-ce? Bon, vas-y.
Donc c'est un jeu de cartes, donc vraiment un jeu de réussite. On va devoir, en fait, dans le paquet de cartes, on explore un labyrinthe, on est dans les songes. Enfin, non, ouais.
C'est pas trop. Dans ses rêves. Dans
les rêves, ouais. Et il va falloir trouver des portes. Alors, les cartes, elles sont de quatre couleurs, bleu, jaune, rouge, vert. Et il faut trouver deux portes. Enfin, il va falloir réussir à trouver deux portes rouges, deux portes vertes, deux portes bleues, deux portes jaunes. Pour le faire, donc, on a cinq cartes en main. Et à son tour de jeu, on a le choix entre défausser une carte ou la jouer. Quand on la joue, on la pose en séquence avec les cartes qui ont déjà été posées. Et sur chaque carte, donc, elle a une des couleurs, et en plus elle a un symbole, donc ça peut être un soleil, une lune ou bien une clé. Pour poser une carte, il faut que la carte qui a été posée précédemment, enfin il ne faut pas qu'elle partage le même symbole. Donc si la carte avant j'avais joué un soleil, je ne veux pas rejouer un soleil, il faut que je joue une lune ou une clé.
Mais elle doit être de la même couleur, mais avec un.
Non, pas forcément la même couleur. Mais si tu fais une séquence de trois quarts de la même couleur qui se suivent, dans ces cas-là, tu peux aller chercher. Ouais, tu peux chercher une porte dans la pioche. Tu vas chercher une porte de la même couleur, tu la poses de côté et tu remélanges. Et ensuite, comme tu n'as plus que quatre cartes en main, tu repioches une carte. Ce qui peut se produire, c'est que de temps en temps, tu vas tomber sur. Non, ça, c'est une extension. Tu vas tomber sur une carte songe.
C'est pas. Ouais, c'est de plutôt cauchemar que songe.
Cauchemar, ouais. Ouais. Pardon.
Il y a des trucs un peu bizarres. Ouais, c'est, en fait, c'est.
Tu m'as filé avec la règle allemande.
Voilà. Quoi ? Et alors, bah, comment ça se dit cauchemar en allemand ?
Je sais pas.
Voilà. Et donc c'est. J'en profite pour dire un mot des illustrations qui sont un peu particuliers.
Bah, c'est le rêve.
Oh ouais, c'est onirique. Ouais, tout à fait. Ben, tout à fait. C'est du genre BD crayonné avec des couleurs. Bon, vous verrez. Je vous mettrai une illustration sur le site.
Qui bave un peu.
Et en fait, elle est vraiment cauchemardesque
cette sorte
carte.
De monstre, c'est une sorte de chat.
Ce tapis dans ta chambre quand tu es petit et que tu vas t'endormir et que tu vois les formes. C'est horrible. Ouais, voilà, c'est ça.
C'est Monstre et Compagnie.
Ouais, c'est ça, voilà. Donc, excuse-moi, je continue.
Eh oui. Bref, donc, je sais plus où je suis. Oui, donc, on pioche une carte songe, enfin, cauchemar.
Oui.
Et alors, la carte cauchemar, il va falloir faire une action. Jamais bonne, hein, évidemment. C'est pas bon signe, la carte cauchemar. Donc, ou bien on défausse toute sa main, ou bien on choisit qu'une des portes qu'on a déjà trouvées, on va la remélanger dans la pioche, ce qui n'est pas bon. Ou bien on va essayer de piocher les cinq premières cartes de la pioche et de les défausser aussi directement.
Ce qui n'est pas bon.
Ce qui n'est pas bon. Enfin, bref, c'est vraiment tout n'est pas bon. Et puis, bon, la carte cauchemar, après, quand même, on la vire. Hein.
Tu l'enlèves de.
Ah oui, et on peut aussi défausser une clé qu'on a en main pour.
Ce qui n'est pas bon.
Eh ben, si des fois, enfin, quand t'as une clé, tu le fais. La clé, c'est une carte qui est bien, parce que c'est pareil. J'ai dit qu'à son tour, on peut jouer une carte ou en défausser une. Si on défausse une carte clé, on peut regarder les cinq premières cartes de la pioche, en garder une, et mettre les autres dans l'ordre qu'on veut. Ça, c'est pas mal. C'est très puissant. Voilà. Le jeu, il est là. Évidemment, quand on a réuni les 8 portes, on a gagné. Quand on doit piocher une carte et qu'on ne peut plus piocher, on a perdu. En l'occurrence, moi, pour l'instant, j'ai toujours perdu. Pourtant, j'ai tenté plusieurs approches. Alors, c'est pour ça que j'ai une petite réussite. Ça se joue vite, ça se joue en moins de 5 minutes. Voilà, moi, j'ai trouvé ça pas mal, en fait, c'est sympa. Le problème, c'est qu'on passe son temps à manipuler des cartes. Parce que quand il faut aller chercher une porte dans la pioche, on retourne la chercher, etc. Il faut en mélanger. En plus, je jouais ce jour-là avec peu d'éclairage et entre les portes vertes et les portes bleues. Si, en fait, ça se voit bien. C'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclairage.
C'est juste tes yeux, quoi.
Non, bah oui, je jouais avec peu d'éclairage et donc je voyais très mal.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je jouais avec peu d'éclairage.
Bah, j'étais au bureau avec ma pauvre petite lampe, donc voilà, qui est un peu masquée. Donc, bref, ça n'éclairait pas beaucoup.
Et le jeu à deux, ça se passe comment?
Eh ben, je l'ai pas essayé. Ah, je l'ai dit au début, j'ai pas essayé. Tu m'écoutes bien.
Non, mais de toute façon, c'est un jeu pour un joueur, donc.
Mais c'est, je pense, surtout à la base pour un joueur. Voilà, bon, à part quelques manipulations, donc finalement, en fait, ce sera un jeu qui se prêterait très bien à jouer sur tablette, sur iPad. Avis aux développeurs. Petite particularité aussi du jeu, c'est-à-dire que là, je vous ai décrit que le jeu de base, et comme je gagne déjà pas, je vais pas tenter le reste. Mais il y a des extensions. Le jeu propose à la base, enfin, vraiment, dans la boîte de base, vous avez déjà l'équivalent de trois extensions.
Donc, comme dans tournée, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est la mode des jeux avec extensions incorporées.
Du coup, on va dire, c'est faut appeler ça des variantes. Mais c'est vachement sympa. Moi, je trouve que dès la boîte de base, tu as déjà. Voilà. Alors voilà, je voulais. Donc, voilà.
Par contre, je pense que c'est au moment du développement du jeu, ça permet à l'auteur de pouvoir garder dans le jeu des choses qu'il aurait enlevées, qu'il a épuré le jeu, il l'a enlevé et puis. Supposition, mais ça peut être ça. Et c'est sympa. Donc, pour info, l'illustratrice, c'est Élise Plessis. Il y a Hans-Georg Schneider qui a participé aussi. Donc, je vous mettrai des exemples d'illustrations sur le blog podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Onirim, c'est pour un ou deux joueurs. Ça dure 5 à 10 minutes et à partir de 8 ans. Et puis ça doit valoir 10 à 15 euros dans une belle boîte métal. On me l'a offert.
Oui. Quoi? La version Pegasus, je sais pas si la version philosophiale est en boîte métal.
Ah, bon, bah peut-être. Vous trouverez éventuellement. on me l'a offert dans une boîte métal. Et puis merci à Ludic Bazar. Merci à eux de nous aider à nous nous aider à avoir un peu plus de matériel, avoir des cartes de visite, avoir des
filtres anti-pop,
des t-shirts, puisque quand vous nous croisez, ouais, des filtres anti-pop, des t-shirts quand on est à des tacanes, quand on est à des acanes, enfin quand on était là-bas, on avait des t-shirts qui ont été qu'on a pu payer grâce à Ludique Bazar. Donc merci Ludique Bazar. Et toi, joueur qui t'intéresse aux jeux de société.
Et
qui écoute Proxy Jeux.
Et qui a envie toujours d'acheter 12 000 jeux.
Et qui a envie toujours. Ah oui! Eh bien, nous allons te faire des économies. Ce soir, nous te faisons faire des économies.
Puisque tu peux maintenant tester tes jeux grâce à ludicbazar.com.
Oui, c'est pas gratuit, mais pas loin.
Ouais, c'est pas loin.
C'est pas loin.
Le concept,
il est simple. Tu vas sur le site de ludicbazar.com. Tu sélectionnes un jeu neuf, puisque Ludique Bazar fait aussi de l'occasion, mais là on parle de jeu neuf. Tu l'achètes, tu le reçois.
Tu le testes pendant 30 jours avec tes amis.
Oui, alors c'est 30 jours entre le moment où tu l'as reçu et le moment où tu vas le renvoyer.
Si vraiment
il ne te plaît pas.
Mais si tu nous écoutes, tu vas acheter que des jeux qui te plaisent.
Ben, on espère, oui.
Des fois, on est très
enthousiaste sur certains jeux. On survend. Mais voilà. Donc, entre le moment où tu as reçu ton jeu et le moment où tu vas le renvoyer, le cacher de la poste faisant foi, tu as 30 jours. Il ne faut pas abîmer les jeux, il faut bien en prendre soin. S'il ne te plaît pas, tu le renvoies, sinon il sera considéré comme de l'occasion. Forcément, il va perdre de la valeur. Et Ludique Bazar te fait un avoir. Donc sur ta prochaine commande, tu auras un avoir du montant du jeu moins 5 euros. Donc tu vas dépenser 5 euros pour jouer pendant ton jour à un jeu. C'est pas pour moi. Et puis tu le renvoies et puis tu en rachètes un autre.
Ouais, acheter un jeu neuf ailleurs et le voir le revendre dans nos cases, tu perdras plus que 5 euros.
Ah oui, c'est la moitié de son prix de toute façon. Donc.
Je vois les jeux aux deux tiers de leur prix à peu près si je les revends rapidement. Mais c'est forcément plus que 5 euros. Donc ça, c'est vraiment une super offre.
Alors, ils essayent de voir avec leur magasin de la rue...
Messonnier. Ludique Bazar Messonnier à Paris.
C'est pas gagné parce que c'est vraiment deux entités complètement distinctes. Ouais. Mais voilà.
Je pense qu'ils vont y arriver. Parce que vraiment, moi, je trouve que c'est novateur, c'est une nouvelle offre. Vraiment, 30 jours, c'est énorme. Ça permet vraiment d'être sûr que le jeu, on ne fait pas juste une partie...
Voilà, donc Ludique Bazar, ils sont vraiment très novateurs pour le coup. Et renvoie-le si ça ne te plaît pas.
Ouais. Et puis on profite, ils ont quelques prix malins nouveaux. Ils ont fait, ouais, c'est pas mal. C'est les Aventuriers du Rail. Alors, les Aventuriers du Rail, vous allez me dire. Tout le monde l'a, mais il y en a qui n'ont encore pas. Et à 30 euros, c'est l'occasion de l'avoir chez vous.
Et puis pour faire un cadeau à 30 euros, c'est bien.
Ouais,
c'est normalement 10 ou 15 euros.
C'est facilement une quarantaine d'euros.
Ouais. Ouais.
Et il y a même Dominion Prospérité. Donc si toi, auditeur, tu as écouté le dossier Dominion, alors si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter.
Tu peux y aller.
Mais si tu as déjà écouté et que tu n'as toujours pas Prospérité, c'est l'occasion de craquer.
Ouh, c'est mal.
Il est à 32,90€ en ce moment.
Au lieu de ?
Facilement 40-45.
D'accord. Donc on fait un bon...
Donc voilà, si tu es fan de, 20, de Dominion, tu veux renouveler ton Dominion, c'est l'occasion.
Voilà, alors notre sponsor, www.ludicbazar.com. Merci encore beaucoup à lui et merci de nous permettre d'essayer des jeux quasi gratuitement. Alors, les événements. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons, nous sommes à l'origine d'une application iOS et Android qui s'appelle Proxy Jeux. Tout et sur lesquels vous pourrez retrouver les événements. Donc, on va faire un petit peu plus light que d'habitude parce que ce podcast va être interminable. Éloigne ton smartphone. Ah bah oui. Merci. Voilà, ça, c'était l'application Proxy Jeux. Alors, les événements. Moi, je voulais parler de quelque chose qui m'a un petit peu touché. Ça s'appelle Silent Hill.
Tiens, non, c'est étonnant que ça t'ait touché, celui-là.
dans chaque joueur, il y a un grippin qui sommeille. Donc, à Silent Hill, je vous enverrai vers une page Facebook qui décrit le week-end. En fait, ce n'est pas un week-end, c'est 16 heures de GN, de grandeur nature. Ça se passe dans une usine désaffectée et ça se passe dans le monde de Battlestar Galactica. C'est Songe de l'âme qui organise ce GN. J'ai pas mis les dates, donc forcément, ça va être super simple.
L'application Proxy Jeux est là à la rescousse.
Heureusement, l'application est là en deux.
Du 21 au 22 avril.
Donc, ça commence le samedi 21 avril à 14h. Alors, il y a un briefing avant. Il faut s'inscrire sur le site. Il y a encore quelques places disponibles, quelques rôles disponibles. Donc, allez-y vite si ça vous intéresse. Ça se passe à quelques kilomètres de Poitiers. C'est un GN, Battlestar Galactica, avec 50 joueurs. Et ça dure de samedi à 14h à dimanche, tôt le matin, vers 6h du matin. Voilà. Donc, je vous renvoie soit vers l'application, vous verrez déjà une petite présentation du GN, soit vers le site sur lequel vous mettrez toutes les références, un lien vers cet événement qui est un peu différent de tout ce qu'on a à vous proposer en termes de week-end et de salon. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous en parler. Et puis,
une petite initiative à proximité de Lyon, à Givors.
Le même week-end.
Le même week-end, 21 et 22 avril. Alors, c'est une initiative, on va dire, le but, c'est de faire jouer les enfants, les ados et d'attirer les familles. Donc, ça s'appelle Givors en jeu. Donc, Givors, c'est une ville à 30 km de Lyon, au sud.
Oui, c'est ça. Donc, coincé entre Vienne et Saint-Étienne.
Voilà. Donc, ça permet de jouer le samedi de 10h à 18h, le dimanche de 10h à 17h. C'est 2€ pour tout, c'est même gratuit au moins de 3 ans, ça permet, c'est dans des gymnases. On vous mettra de toute façon le lien. L'idée, c'est de proposer le jeu un petit peu sous toutes les formes, mais pour les enfants. Alors, ils annoncent notamment des tournois de cartes Yu-Gi-Oh!, du Lego, du FIFA, du Kapla, donc une présence de Quai des Ludes, donc une bibliothèque lyonnaise, une usine à billes. Donc, ça reste pour les plus jeunes. Ils annoncent également normalement une partie plutôt jeu en bois, jeu de plateau, jeu de cartes. Jeux de société, donc là on est un petit peu plus dans le familial. Voilà, c'est une initiative de la MJC.
De Givors ?
Ouais, la MJC de Givors. Donc c'est une idée qui, ça fait un moment qu'ils l'ont. Ils ont enfin réussi à la concrétiser. Donc si vous ne faites rien ce week-end-là et que vous avez l'occasion d'y passer, je pense que ça peut être sympa. Ça permettra sans doute de donner à l'événement
une ampleur.
Ouais, une ampleur et une chance de faire une deuxième édition.
Téléchargez l'application sur votre mobile et vous aurez plein d'événements. Alors, ça ne se limitera pas que aux événements de la quinzaine et vous pourrez vous projeter un petit peu plus loin que ce qu'on peut vous annoncer dans le podcast. On continuera à faire des événements un petit peu plus brefs dans le podcast, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà.
Et puis la news qui m'a le plus fait plaisir, plus excité pour cet épisode à écrire, c'était l'arrivée de Agricola pour deux joueurs. Alors Agricola, Olivier vous en fait une petite présentation dans quelques minutes. C'est un excellent jeu de Uwe Rosenberg qu'on va voir, donc, dans lequel on gère sa ferme, qui était déjà très bien jouable à deux joueurs.
Oui, c'est ça.
C'est 2 à 5 joueurs. Mmh. Là, c'est donc une version spéciale pour deux joueurs. Alors la thématique est toujours la même, on gère une ferme. La durée, c'est 30 à 40 minutes, donc finalement, c'est quasiment la durée d'un Agricola déjà pour deux joueurs. La différence, c'est que là, a priori, on est simplement éleveur de bêtes, donc on retrouve les chevaux, les vaches, les moutons et les cochons du jeu du Agricola. Simplement, on va devoir étendre son enclos, améliorer ses bâtiments, parce qu'il va falloir accueillir des troupeaux de plus en plus grands. A priori, la mise en place est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et c'est annoncé chez Philosophia pour fin avril, donc tout bientôt.
Oui, tout bientôt.
C'est ça, hein ?
Oui. Et toi, ça t'excite ?
Ouais, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup joué à Agricola à deux joueurs.
Ouais.
J'attends de voir ce que ça va donner. Ce qui m'inquiète quand même un petit peu dans cette version, c'est qu'elle m'a l'air simplifiée, parce qu'il n'y a, a pas la richesse des cartes.
Oui, c'est
mais
ça.
Je ne voudrais pas dévoiler.
Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que je présente Agricola, et après, on parle de la version à deux joueurs.
Allez, vas-y.
Donc. Agricola, c'est un jeu de Uwe Rosenberg qui a été édité chez Lookout Games en 2007. Ça se joue de 1 à 5 joueurs. Donc, on revient sur le jeu solo. Donc, comptez au moins 2 heures dans une partie normale à partir de 12 ans. Après, il y a plusieurs versions. C'est-à-dire que vous pouvez y jouer dans une version qui est simplifiée, familiale, où vous avez juste les mécanismes de base et pas de cartes. Et là, vous pouvez jouer avec même des enfants tout petit peu plus petits, 10 ans, 11 ans. Après, je vais vous expliquer qu'il y a des cartes qui permettent de donner une vraie ampleur à ce jeu-là. Et c'est ce qui complexifie vraiment beaucoup le jeu.
Mais donne toute sa richesse.
Alors, Le but du jeu, c'est au bout de 14 tours, avoir le plus de points de victoire. Ça, c'est le but du jeu. Et comment est-ce qu'on gagne des points de victoire ? Il y a plusieurs façons de gagner des points de victoire. En élevant des animaux, alors, on va pouvoir, au fur et à mesure de la partie, se procurer des moutons, des sangliers, des bœufs, c'est tout.
Et des chevaux dans l'extension.
D'accord, mais il n'y a que 3 dans la boîte de base, il n'y a que 3. Ouais. Et dans l'extension Les Fermiers de la Langue, tu as aussi des chevaux.
Attention, l'extension n'est plus disponible et ne sera pas rééditée.
C'est vrai ?
Oui, donc ne parlons pas trop de l'extension, on va faire des envieux.
Ouais, mais ça c'est super dommage en fait.
Bah, ouais.
On gagne des points de victoire également en créant des champs. Chacun a un plateau individuel devant lui et va pouvoir créer des champs. Cultiver des légumes, des céréales, créer des enclos où on va pouvoir mettre ces animaux qui vont pouvoir se reproduire et on va avoir de plus en plus d'animaux. Et puis, on va avoir une maison avec 2 pièces au début de la partie. Et cette maison, on va pouvoir l'agrandir et puis on va pouvoir l'améliorer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire d'abord des pièces supplémentaires. Puis, la maison va pouvoir, d'une maison en bois, passer à une maison en torchis ou anglaise, je ne sais pas comment on dit.
En argile.
Ouais, enfin l'argile.
C'est la tradition française.
Ouais. De chez nous, on appelle ça du pisé.
Oui, ce que je veux dire, c'est le pisé, quoi. Voilà. Mais...
Et d'une maison en pisé, on va pouvoir la transformer en maison en pierre. Et ça, ça va nous rapporter en fonction du nombre de pièces. Plus ta maison sera grande et plus tu l'auras améliorée, plus ça va te rapporter des points de victoire. Et puis, j'ai dit qu'on pouvait faire des enclos, on gagne des points de victoire grâce à ça.
Et des points de malus.
J'y viens.
Ah.
Donc. Chacun dispose d'un plateau individuel qui, au départ, est vide, mais avec les 2 pièces de sa maison. Et au fur et à mesure, on va pouvoir créer des choses sur cette parcelle, la remplir, et il va falloir se développer sa ferme. Donc ça se passe au Moyen-Âge, un moment où la vie est dure, et tout ne sera pas facile.
Ouais, je trouve quand même que les fermes, elles sont prospères, hein. Les familles grandissent facilement, il n'y a pas de famine. Enfin, c'est pas la famine, pardon. Mais il n'y a pas de maladie, ça grandit, ça prospère bien, je trouve, quand même.
Alors, actuellement, on passe tous les dimanches soirs sur, je ne sais pas quelle chaîne, Les Piliers de la Terre, le téléfilm, ça doit être France 3,
Ken Follett, ouais.
De Ken Follett. C'est à peu près le même moment, et c'est à peu près la même... c'est pas facile, hein, c'est...
Non, voilà. Mais je sais bien, mais je veux dire, c'est que dans le jeu, on ne sent pas cette...
La thématique,
oui.
de famine et de la peste, tout ça.
Ouais, non, la ferme prospère bien.
Donc, le but du jeu, c'est de faire prospérer sa ferme. On dispose aussi donc d'un plateau central avec des ressources. Au départ, on va avoir un certain nombre de ressources fixes. On va pouvoir avoir du bois, on va pouvoir avoir des roseaux, on va pouvoir avoir un peu de nourriture quand même pour nous aider à démarrer. Avec 5 bois et 2 roseaux, on va pouvoir faire une pièce supplémentaire, par exemple, dans sa maison. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on va rajouter des ressources. C'est-à-dire qu'on va avoir une case sur laquelle on va avoir 3 bois. Et quoi qu'il se soit passé, le tour d'après, on va rajouter 3 bois. Donc soit quelqu'un l'aura récupéré, soit le tour d'après, on va avoir 6 bois.
C'est bien le maximum.
Ouais, après, au début de partie, après, ça peut être... voilà. Donc on a ces cases sur lesquelles on va pouvoir placer un de ces 2 jetons au début de la partie pour prendre des ressources ou pour faire une action. L'action, ça peut être, par exemple, cultiver un champ. En plus de ça, en plus de ce plateau sur lequel vont venir s'ajouter au fil des tours des actions possibles, on va avoir des cartes. On va avoir des aménagements majeurs, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont disponibles pour tous les joueurs, qui sont toujours les mêmes d'une partie sur l'autre, et qui vont pouvoir permettre à chacun de faire un four à pain, ou des choses très spécialisées qui vont nous permettre d'avancer et d'avoir un moteur de bouffe, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que la nourriture, c'est très important dans l'agricolat, on en reparlera tout à l'heure. Et en général, ça permet de transformer les matières premières en nourriture. Et puis, enfin, il n'y a pas que ça, mais l'idée là, c'est les aménagements majeurs. Ça permet soit pour une certaine partie de pouvoir manger, soit pour une certaine partie de transformer les ressources en points de victoire à la fin de la partie. Et puis... Dans une partie normale, donc ça, si vous jouez en familial, vous n'avez pas les aménagements majeurs, vous n'avez que la partie « je choisis une action, prendre une ressource et après je peux construire des enclos, je peux prendre des bêtes, les mettre chez moi, je peux construire des pièces supplémentaires dans ma maison, etc. etc. » Quand on joue une partie normale, on a des cartes en plus. On a des cartes de savoir-faire et des cartes aménagement mineur. Et on en a 7 de chaque. Et là, C'est le drame. Parce que ce sont des cartes qui sont complètement imba. Certaines sont complètement cheatées. Il faut que je dise d'une autre façon. Il n'y a aucun équilibre, en fait, dans toutes ces cartes. Donc, si tant est que quand vous vous retrouvez face à des joueurs qui ont l'habitude de jouer, vous allez jouer en draft. C'est-à-dire que chacun va avoir cette carte, va en prendre une et va passer les six autres à son voisin. Donc, ça va rajouter encore de la durée de la dans la partie, mais ça va équilibrer les choses. Parce que ça va vous permettre d'avoir une construction de jeu qui soit cohérente. Donc, côté savoir-faire, on va avoir... On va avoir le pêcheur, on va avoir l'intendant, on va avoir le marchand de viande, par exemple. Si vous avez un four, vous pouvez transformer vos animaux en points de nourriture à tout moment. Un mouton peut être transformé en deux points de nourriture, un sanglier en trois points de nourriture, etc. etc. Le vannier qui va s'appuyer sur le roseau, etc. Donc on va avoir des rôles qui sont bien particuliers, qui vont permettre de casser la règle, en fait. C'est-à-dire que tu as le jeu normal et les savoir-faire vont te permettre de modifier un petit peu, d'avoir des avantages en fonction de rôle. C'est les gens qui sont autour de la ferme, en fait. Le châtelain, le surveillant du champ, etc., etc. Et puis, il va y avoir aussi des aménagements mineurs. Alors, les aménagements, ça peut être la meule, ça peut être la mangeoire, ou ça peut être également le champ de haricots, qui sera un champ supplémentaire dans lequel on va pouvoir semer des légumes. Et ces cartes, en plus de donner des avantages dans le jeu, vont pouvoir me permettre, pour une partie, de rapporter des points de victoire. Tu voulais dire que le draft ?
Ouais, moi je joue pas le draft parce que c'est un peu trop long. Moi, chaque joueur pioche 10 cartes et on choisit 7, en fait. De toute façon, globalement, sur les 7 cartes, tu vas jamais les jouer. En tout, ça fait quand même 14 cartes par joueur. Ça va faire cet aménagement.
Ça serait un petit peu une erreur de jouer de vouloir jouer à tout prix les cartes.
Ouais, c'est ça. Moi, j'en joue, on va dire, 2-3 de chaque type, c'est bien le maximum, quoi. Ouais.
Donc, il y a 3 types de cartes. Le deck de base.
Ouais, débutant.
Après interactif.
Et puis avancé.
Alors là, je vous ai donné le bon côté du jeu. C'est-à-dire, on va se développer, on va pouvoir avoir plus de gens dans sa famille, plus de pièces dans sa maison, plus de gens dans sa famille et non plus d'actions. Ça, c'est le bon côté. Mais le mauvais côté, c'est que non seulement on compte des points en positif, mais on en compte aussi en négatif. Chaque ressource va rapporter des points. C'est-à-dire... des ressources qui sont plus ou moins rares. Par exemple, le bœuf arrive longtemps après le mouton, donc il est plus rare et va donner des points, plus de points plus vite que les moutons. Les moutons, il va en falloir beaucoup pour arriver à 4 points, qui est le maximum en fait, dans chaque ressource. Par contre, si tu ne fais pas de bœuf, tu marques moins 1 point. Si tu ne fais pas de mouton, c'est moins 1 point. Si tu ne fais pas de céréales, c'est moins 1 point. Si tu as des espaces libres dans ton domaine, c'est moins 1 point. Et ça, c'est le drame. Par case et par ressources que tu n'as pas. Donc, la première contrainte, c'est qu'il faut tout faire. Il faut tout faire et on a a priori que 14 tours. Au début de la partie, on n'a que 2 jetons, donc 2 actions par tour. Et là, on se dit, il va falloir optimiser. En plus de ça, donc il faut se développer, mais il y a une autre contrainte, c'est qu'il faut nourrir sa famille.
Régulièrement.
Et oui,
régulièrement.
Et puis de plus en plus. C'est-à-dire que le vrai problème de ce jeu, c'est qu'au départ, tu as 2 actions et tu as 4 tours pour nourrir ta famille. Et puis après, tu vas avoir 3 tours. Et au dernier tour, tu vas avoir que 2 tours.
Même un tour.
Un tour seulement.
Ouais,
c'est le drame. C'est vraiment dramatique. Parce que quand tu peux pas nourrir, pour chaque point de nourriture que tu peux pas donner, tu vas avoir 3 points en moins. Parce que les pauvres, tu vois, tu disais, non, c'est facile, il n'y a pas de disette, il n'y a pas de peste, il n'y a pas tout ça. Ouais, enfin, ils vont mendier quand même et c'est 3 points en moins.
Sûr, le jeu, mais tu en as déjà distribué? Moi, j'ai jamais distribué de carte mendiant dans le jeu.
Ah bah
la pression, enfin, c'est tellement négatif de se prendre une carte mendiant que du coup, t'arrives toujours à.
Non, parce que dans ton monde, personne ne fait d'erreur en fait. Mais dans le mien, oui, en fait. Quand tu comptes mal et que tu et qu'à la
si
fin
tu comptes mal,
fais... tu dis ah mais je veux transformer le non, tu peux pas. Tu peux transformer, tu peux manger des céréales, tu peux manger des légumes crus, c'est dégueu mais ça passe.
Ouais.
Mais alors le bœuf, le manger cru, ça marche pas. Il faut un four.
Oui.
Et donc c'est juste le drame. Donc il y a vraiment, c'est un jeu d'optimisation avec une contrainte qui est très forte parce qu'il faut optimiser, parce que c'est un jeu très interactif où malgré le fait qu'on a sa propre parcelle et qu'on se développe dans son coin, le fait de dire je vais pas prendre ce bois qui va me permettre, ces six morceaux de bois qui vont me permettre de faire un enclos, je vais plutôt prendre le bœuf parce que ça permettra de le mettre chez moi en attendant sur les enclos et lui il va pas l'avoir. C'est comme ça en fait que ça se passe.
Et lui il prend le bois dont t'avais besoin.
Et mais non parce que lui il a déjà fait ses enclos.
Ouais mais c'est un jeu de pose ouvrier. Oui, on a oublié de préciser quand même. Ouais, enfin ça n'empêche pas, moi je connais certains joueurs où il y a 6 ou 9 bois, j'en ai pas besoin mais je vais les prendre quand même hein.
Ouais, voilà.
Et là ça te met dedans.
Et ben le chaos, la théorie du chaos vous connaissez. Donc voilà, c'est très tendu, très stressant et c'est très bien parce que même la personne qui foire complètement sa partie, elle aura créé quelque chose. C'est-à-dire que le point positif, c'est que tu peux faire un score minable parce que tu n'auras pas rempli tout ton terrain, parce que tu n'auras pas fenêtre de personnes supplémentaires. C'est beaucoup en fait, tu gagnes 3 points pour chaque personne dans ta famille. Donc c'est vraiment important. C'est facile, en plus c'est des actions supplémentaires, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut miser assez vite.
Il faut planifier ses actions sur la fin quand même, c'est ça le plus.
Ah mais il faut toujours planifier, c'est pour ça qu'une heure, ça me paraît super court en fait.
Bon, je sais pas, non, je me rappelle avoir enchaîné deux fois, enfin avoir fait deux parties dans la foulée quoi.
Oui, mais quand on aime, on compte pas. Non mais ça m'étonne pas, c'est un très très bon jeu, et si tu veux c'est prenant parce qu'il faut vraiment calculer, mais en fin de compte c'est vraiment très, très gratifiant. Et avec les savoir-faire, avec les aménagements mineurs, t'as vraiment une rejouabilité qui est super important.
Ouais, et puis les illustrations, moi, je trouve, sont vraiment sympas. Ça aide à se plonger dans le jeu.
Qui a fait les illustrations ?
Je sais pas.
C'est la patte graphique de l'auteur qui suit, en fait, Uwe Rosenberg et Lookout.
C'est Clemens Franz et Andrea Katnig.
Voilà. Voilà, donc ça, c'est Agricola. Il faut savoir que c'est un triptyque, en fait, créé par Uwe Rosenberg. On a en 2007 l'apparition de Agricola, en 2008 Le Havre et en 2009 Loyang. C'est en fait des jeux qui se suivent. Normalement, il y aurait dû y avoir Loyang avant Agricola, mais Agricola est sorti avant et a fait un super buzz. Et ça, c'est vraiment un des tout meilleurs jeux du monde.
C'est à mettre à côté de Puerto Rico.
Oui, tout à fait. Et puis, en fait, sur Board Game Geek, en fait, t'as tous les struggles. Et après, t'as Le Havre et après, t'as Puerto Rico. Donc, voilà. Les mécanismes, en fait, sont un petit peu... On voit l'évolution de Uwe Rosenberg dans sa démarche de création ludique. Loyang est, pour ma part, à mon avis, un cran au-dessous des deux autres.
Pour moi, il est nettement en dessous.
Le Havre reprend les mécaniques de récupération de ressources, mais en développant beaucoup plus l'aspect
bâtiment.
En fait, on achète des bâtiments pour transformer les matières premières en matières secondaires, et puis après les matières secondaires pour marquer des points de victoire. Et Aurel Labora, qui est sorti en 2011, reprend encore et pousse encore un cran plus loin le principe où tu vas avoir vraiment cette multiplication de transformation, et il faut vraiment anticiper. Mais on n'en est pas là. On parle de Le Havre.
D'Agricola.
On parle de Agricola. Donc, Agricola, il y a eu plein d'extensions, notamment des decks de savoir-faire d'aménagement. Il y a le Z-Deck, il y a eu le NL-Deck. Il y a eu des decks vraiment un peu rigolos.
Le Fairy Deck. Ouais, Legendary Deck, pardon.
Mais ça, vous ne le trouverez pas non plus.
Non. Si, des fois, ils sont mis dans les trucs genre. La boîte, ils ont mis plein d'extensions, la Goodies. Mais c'est que en anglais, par contre. Je ne crois pas que ce soit traduit en français.
Non, bah c'est Hystari qui fait ça, c'est Hystari qui édite ça en français.
Parce qu'il faut savoir que les pions qui représentent les animaux aussi, ils sont tout mignons.
Oui, mais attends. Non, on a la boîte de base, en fait, c'est des pions en bois orange, marron et pourri. Et en fait, on peut pimper son Agricola.
Ouais.
Ça vaut une fortune, c'est des sacs avec des petits moutons, des petits... Et alors, t'as plusieurs sacs. Tu vas d'abord acheter des animaux, après tu vas acheter des...
Non, les animaux, tu les as de base. Les animaux, ils sont déjà mignons.
Ah oui, c'est les céréales.
C'est les légumes. Puis après, t'achètes un sac avec les céréales et les légumes. Ouais. Et un sac avec les bois, les roseaux, tout ça. Ouais. Et puis tu as les plateaux.
Oui, les plateaux, mais alors non, ça, non, je suis pas tombé là-dedans.
Ah, ils sont mignons, moi j'aime bien. T'as le plateau Mars.
Ouais,
plateau.
Super.
Et donc, mais ça, c'est tout ça, c'est dans la boîte Agricola The Goodies. Bon, alors par contre, donc t'as pas mal de ce matériel.
Ah.
Et puis, mais par contre, t'as les decks qui sont aussi proposés, mais qu'en anglais, par contre.
Alors malheureusement, si vous arrivez à le trouver en occasion, ruez-vous dessus, les fermiers de la Lande.
Oui, ça se trouve plus qu'en occasion.
N'hésitez pas à vous jeter dessus, ça, je vous le rembourse si ça vous plaît pas. Alors ça ajoute le chauffage. C'est...
Proxy jeu, vous rembourse vos jeux s'il vous plaît.
Donc ça ajoute une autre contrainte, c'est le chauffage. Non seulement il faut nourrir les gens, mais en plus il faut les chauffer. Et si tu chauffes pas tes bonhommes, eh ben ils vont tomber malades.
Et ton plateau en plus, il est pourri par la.
Non, ça c'est bien ça.
Bah ça dépend. Alors, il y a de la forêt, mais il faut les couper avant. Mais
attends, je suis pas là. Donc ça rajoute le chauffage et il y a quand même un point positif, c'est que sur ton plateau qui est vide dans l'agricola de base, tu vas avoir de la tourbe et de la forêt. Donc tu vas pouvoir couper la forêt pour du bois ou pour chauffer. La tourbe, tu peux pouvoir la chauffer. Et puis, tu as encore deux choses. Tu as les chevaux.
Ouais, et les actions.
Et alors ça, les chevaux, tu peux en avoir 1 million. C'est cool. Et ça te rapporte beaucoup. Éventuellement, ça te rapporte beaucoup.
Oui, c'est un point par cheval.
Et les actions supplémentaires. Et en fait, tu as des actions gratuites. C'est-à-dire qu'il y a deux cartes. Mmh. Et sauf la personne qui n'a plus d'action, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de plus avoir d'action à faire, tu peux récupérer une action gratuite. Donc sur les cartes, tu vas avoir trois actions au choix qui vont être, je ne sais
plus. Tu peux couper ton bois, justement tes forêts, tu peux prendre des chevaux, tu peux sinon virer la tourbe, des choses comme ça.
Alors là, le principe c'est, ok, tu vas avoir une action gratuite, sauf que tu ne vas pas la faire en dernier, donc tu vas laisser les autres faire des actions qui sont sur le plateau. Ouais. Et c'est super bien vu, parce que tu penses que tu as une action supplémentaire, mais parfois, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, superbe extension, superbe jeu. Donc, en conclusion, c'est vraiment un must-have. Si vous n'avez pas ça dans votre ludothèque, il faut y aller. C'est super simple d'accès, donc ça permet de faire jouer n'importe qui en enlevant la partie...
en mode familial.
Ouais, en enlevant les cartes. Et puis, ça a une énorme jouabilité. C'est-à-dire qu'en fonction... Déjà, avec les decks, quand vous avez passé le deck E, que vous passez le deck interactif, qui est plutôt si vous avez plus c'est comment déjà les cartes dans interactif,
t'as des cartes que tu passes à tes voisins, genre ça te donne un bois puis tu passes après ton voisin et ainsi de suite.
Sinon c'est celui qui a le plus de ressources qui va avoir un avantage, des choses comme ça.
Ouais, puis t'as des cartes en compétition, t'as la construction de la route, tu as un chemin, puis si tu as la route, il a plus de points que toi et ainsi de suite. Enfin, c'est des cartes, ça dépend, tu sais pas s'ils les ont en main par contre.
Donc voilà, Agricola, il faut pas hésiter à l'essayer ou à l'acheter. En fin de compte, Agricola, ça doit faire partie de toutes les bonnes ludothèques. Sans hésitation, c'est vraiment une référence. Et petit fun fact, j'ai acheté mon Agricola en 2007 sur le Salon d'Essonne. Je leur ai demandé s'il était possible de jouer Agricola
en allemand.
Oui, tout à fait. Je l'ai acheté en allemand. Ouais, oui. Voilà. En traduisant que la ligne du milieu, puisqu'il y a une ligne, et après il y a le développement de toute la carte en bas. Si ça pouvait marcher, si on pouvait y jouer.
Yes, Mister. Yes.
Yes. Yes, of course.
Yes, Mister.
Pas de problème, Mathieu. Et voilà. Donc j'étais un des premiers à avoir un Agricola, mais j'en ai chié.
Et tu l'as toujours.
Oui, je l'ai toujours. Oui, j'ai deux Agricola chez moi, en allemand, avec les protège-cartes et puis les. L'arbre que j'ai abattu
T'as tout traduit en plus.
Mais c'était trouvable, mais c'est pas moi qui l'ai traduit. Mais,
ah ouais, mais t'as quand même fait tout franciser tes cartes. Quoi.
Ouais. Voilà.
Heureusement, après, il y a eu la version française par Istari.
Alors, Agricola, c'est un jeu de Uwe Rosenberg qui est édité en français par Istari dans la gamme Istari Plus. Ça se joue de 1 à 5 joueurs, privilégié le jeu à 2 ou plus. 30 minutes par joueur à partir de 12 ans et c'est un must-have. On a dit qu'on revenait juste 30 secondes sur la version de joueur. Une fois que vous avez joué à Agricola, que vous avez le jeu de base, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est simplifié, où on a gardé que la partie animaux. On a pas, enfin, ils ont enlevé des mécaniques, les cartes.
Ça s'appelait Agricola Terre d'élevage, en fait.
Et j'ai l'impression que c'est un peu une version light. Alors, j'espère que Philosophia ou Uwe Rosenberg vont me faire mentir. J'ai l'impression vraiment que c'est une version light du jeu. Donc, à voir.
Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières,
allez, calibou de calibou.
Je partirais pour Québec.
Alors, moi je
lise de marde blanche.
Alors, moi je vais vous présenter Québec. Alors, Québec, c'est un jeu auquel, franchement, qui était sorti à Essonne, je n'ai absolument prêté aucune attention.
Moi, j'y vais dire
à
plus.
Sa sortie.
Je vais dire plus. J'ai vu le plateau de Québec.
Non, mais c'est ça.
Avec ses couleurs criardes, rouge, bleu, jaune et violet, aubergine,
ouais,
comme
ouais.
Vous voulez.
C'est flash.
Et c'est horrible, quoi. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment...
Puis t'as pas vu quand on a mis nos jolis pions orange et vert sur le plateau.
Non.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis même la boîte, enfin le titre déjà. Moi, en fait, les jeux comme ça s'appelle Le Havre, je sais pas, Rotterdam, ça me fait
3,
pas
rêver.
Trois. Enfin ouais, non, mais ça me fait pas rêver. C'est une nouvelle mode de donner des noms de villes, ça me fait pas rêver.
Las Vegas.
Donc là, c'est le nom d'un pays. Pourtant, c'est un jeu qui date un petit peu. Hein, je pense qu'il date d'après sa conception, doit dater de 2007. Il avait pas mal fait buzzer à l'époque. Il a dû gagner un ou même plusieurs concours de créateurs de jeux. Et voilà, même la couverture d'origine, enfin la boîte, ne m'attirait pas. Mais bref. On m'a quand même dit que ça avait de bons échos, donc j'ai dit, tiens, bah, je vais quand même essayer. Et en fait, c'est très bien. Alors, dans Québec...
Comme quoi, il ne faut jamais juger les jeux.
Jamais, au grand jamais juger, non.
Sur leur illustration.
Ouais, mais c'est ce qu'on avait dit, ça fait une partie de... C'est important. Ouais, enfin, bon, les couleurs criardes, c'est quand même gênant sur la lecture du jeu. Hein. Je ne cacherai pas.
Est-ce que c'est... est-ce que les couleurs, justement, c'est un problème pour les daltoniens? Enfin... Est-ce que justement c'est mieux ou moins bien ou t'en sais rien?
J'en sais rien, je connais pas daltonien. Mais c'est sûr que peut-être ça gêne les daltoniens parce qu'il n'y a pas de symbole pour rappeler les couleurs.
Alors si toi tu es daltonien et que tu as un problème avec ce jeu, dis-le nous.
Bien.
Voilà.
C'est bien. Le jeu, donc rapidement, c'est un jeu de pose d'ouvrier, on va dire ça, et de majorité. Le principe c'est que la partie se déroule sur quatre époques, chaque époque... représente un siècle, en fait, on va jouer la construction de la ville de Québec entre 1608 et 2008.
Ah, carrément, 4 siècles.
4 siècles, on est là, carrément. Un des auteurs est un prof d'histoire, donc il s'est fait plaisir à nous reproduire comme ça l'histoire de la ville de Québec. Dans le mode très avancé, en fait, il y a trois niveaux de règles, il y a un mode familial, après il y a un mode pour joueurs expérimentés, joueurs de jeux de société comme nous, par exemple. Et puis quand on connaît un petit peu Québec, il y a un mode avec des événements qui vont arriver au début des siècles pour reproduire certains événements de la vraie histoire de la ville de Québec. Donc je n'ai pas joué encore avec les événements, donc je ne peux pas dire, mais je pense que c'est pareil, c'est bien imprégné d'histoire. Le jeu est très simple, hein, la règle... Et basique, à son tour de jeu, un joueur va pas pouvoir faire grand chose. Il a le choix entre quatre actions. Il ne fera qu'une de ces actions. Ça va être essentiellement de pouvoir démarrer un chantier ou bien d'amener des ouvriers sur un chantier pour aider à sa réalisation. Il y a quelques autres actions qu'on peut faire, comme prendre un leader. Le leader aura un effet pendant tout le siècle en cours, un bonus qu'il apporte. Voilà. Bah, globalement, c'est à peu près tout. Je vais pas entrer dans le détail des autres actions. Comment ça marche? Le plateau désigne la ville de Québec. Il y en a les quartiers qu'on va pouvoir construire pendant le siècle qui sont identifiés avec une petite pastille bleue.
Oui, ça c'est rigolo parce que généralement on joue plutôt sur des hexagones.
Là c'est des ronds.
Et là c'est des ronds.
Mais en fait ça n'a pas d'importance parce que les ronds représentent des chantiers, des bâtiments que tu vas pouvoir construire.
C'est plutôt les cases qui sont dans les ronds.
Voilà. Et en fait un bâtiment, bah, tu peux amener, en fait il y a trois cases chaque bâtiment. Ça correspond au prestige, simplement. Un chantier est terminé, non pas quand les trois cases sont pleines, mais quand, en fait, on place un architecte pour indiquer qu'on démarre un chantier. Et le chantier sera terminé quand notre architecte s'en va. Et que les trois cases soient remplies ou pas, ça n'a pas d'importance sur la construction du chantier, ça a seulement une importance sur le prestige du bâtiment. S'il n'y a qu'une case remplie, on lui met un jeton 1, une étoile.
Et on clôt le chantier.
Le chantier est clos. Le bâtiment est retourné et terminé. Si jamais il y a deux cases qui sont remplies, il vaut 2 étoiles. Et s'il y a 3, il vaut 3 étoiles. Les chantiers sont de 4 couleurs. Des couleurs merveilleuses, bleu, jaune, rouge et violet.
Et aubergine.
Péchu. Et quand on retourne le chantier qui est terminé, les jetons qui ont servi à la construction regagnent, par exemple, si c'est un chantier violet, ils vont sur la zone d'influence violette qui représente la religion. Ça aura une importance en fin de siècle, qui sera un décompte, celui qui est, et on marque autant de points qu'on a de cubes dans chaque couleur. Donc tous les cubes qui sont de toute façon mis sur les chantiers rapporteront des points de victoire à la fin. Quand on amène donc ces ouvriers sur un chantier et que c'est pas que c'est le chantier qui a été commencé par un autre joueur, donc c'est un architecte d'un autre joueur qui est dessus, on va en plus gagner un bonus. Chaque type de chantier, en fait, il y a un bonus qui est associé, qui est représenté sur le plateau, donc via des icônes. Encore une fois, il va falloir, apprivoiser les icônes, mais elles sont assez simples, et puis de toute façon, il y a une aide de jeu à la fin de la règle, sur le verso de la règle, donc c'est pas dur du tout d'y revenir.
Oui.
Voilà. Sauf que sur le chantier, on peut amener un, deux ou trois ouvriers, et ça, c'est décidé pareil par... en fonction du chantier, là où il est situé dans la ville. Par exemple, ici, c'est deux ouvriers. Là, il en faut trois.
Pour
participer au chantier.
Pour les trois qui sont
autour.
Voilà,
pour les trois qui sont autour.
D'accord.
Le problème, c'est que pour avoir des ouvriers actifs, en fait, on a une réserve d'ouvriers on dit qu'ils sont passifs. Et puis on a une tuile avec une main dessus, comme ça. On va savoir pourquoi c'est une main, pour présenter les ouvriers actifs. Bon. Et donc, il faut toujours s'assurer qu'on a des ouvriers actifs sur cette carte main, parce que sinon, à son tour de jeu, comme on ne peut pas faire l'action amener des ouvriers, on va être obligé du coup de déplacer son architecte, ce qui veut dire clôturer un chantier, enfin arrêter un chantier, en démarrer un nouveau. Mais on n'a pas toujours intérêt à le faire. Pourquoi ? Parce que à la fin du siècle, donc la fin du siècle arrive quand on a fait tous les 11 chantiers du siècle, ou bien, cas plus fréquent, quand on a utilisé tous ces jetons ouvriers. On n'en a plus ni en actif ni en passif. Qu'est-ce qui va se passer ? On va faire un décompte. On va décompter les zones une par une. Et dans une zone, donc il y en a une qui va être commencée, c'est fixé en fonction du siècle. Hein, et ensuite, on va faire dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Mais dans la zone que l'on décompte, donc pour chaque cube, un joueur marque un point. Mais ensuite, le joueur qui en a le plus de cubes, ou s'ils sont ex aequo, les joueurs qui ont le plus de cubes, vont pouvoir prendre la moitié de ces cubes, arrondis à l'inférieur, et les placer sur la zone suivante. Donc il y a un effet de cascade qui va permettre comme ça de remarquer des points, à concurrence de 5 cubes. Et ça permet par exemple, donc si jamais j'ai la majorité dans la zone religieuse et que je déplace, admettons j'avais 8 cubes, j'en prends 4, je les mets dans la zone suivante qui est la zone politique, ça peut me permettre par exemple de à nouveau être majoritaire dans la zone politique et à nouveau de pouvoir prendre la moitié de mes cubes et les transporter ensuite à la zone économie et ainsi de suite. De pouvoir marquer en cascade une grosse série de points.
C'est win-win, mais étant donné que tu ne prends que la moitié de tes...
Ouais, mais ça fait... Tu peux faire le tour. Hein.
De tes quoi déjà ?
C'est tes ouvriers.
Tu prends la moitié de tes ouvriers, c'est des ouvriers qui ne sont pas sur le plateau non plus.
Des ouvriers qui étaient sur le plateau et qui sont arrivés là parce que tu les as fait les chantiers. Enfin, c'est un effet important et il y a beaucoup de points à victoire qui peuvent être marqués comme ça. Ce qui est difficile à juger là-dedans, c'est comment est-ce que tes cubes, tu vas réussir à les amener, parce que pour qu'ils arrivent, il faut que le chantier soit clos. Or, quand tu vas te placer sur le chantier d'un architecte adverse, d'accord, tu vas bénéficier d'un bonus. Mais par contre, tu ne décides pas à quel moment ces cubes vont pouvoir être versés. Et le joueur peut très bien décider que son architecte, à la fin du siècle, il le laisse. Et du coup, ils ne vont pas compter dans ce tour-ci, dans les calculs d'influence. Donc c'est cette partie-là, très très forte interaction. Il faut un petit peu discuter avec les autres joueurs, négocier éventuellement, mais c'est vraiment pas facile à cet aspect-là à gérer. Il y a une autre façon de marquer beaucoup de points de victoire, c'est qu'à la fin de la partie, il y a un décompte final. On va regarder, les joueurs ils regardent donc tous les bâtiments qui sont construits. Donc j'ai dit, quand on a fini un chantier, on le retourne et on met un jeton dessus, 1, 2 ou 3 étoiles en fonction de son prestige. Les joueurs vont regarder la zone, le plus de bâtiments qui se touchent, le plus grand nombre de bâtiments qui se touchent. Et dans cette zone-là, ils ne marquent pas autant de points de victoire que les étoiles, mais plus. C'est-à-dire que si c'est une étoile, ça vaut toujours un point, mais s'il y a 2 étoiles, ça vaut 3 points, et s'il y a 3 étoiles, ça vaut 6 points. Donc si par exemple j'ai 4 bâtiments qui se touchent, qui ont tous 3 étoiles, je vais marquer 4 fois 6, je vais marquer 24 points d'un coup. Donc ça donne deux approches vraiment différentes pour marquer beaucoup de points. Ou bien tu vas tenter de faire un grand groupe de bâtiments qui se touchent, ou bien tu vas essayer, c'est difficile de faire les deux, hein. Ou alors tu vas essayer de marquer beaucoup de points avec les cascades. Voilà, mais bien sûr, dans les deux cas, la part interaction est importante. Parce que pour que tu réussisses un bâtiment avec beaucoup de prestige, ce que tu vas essayer de faire, c'est que tu vas mettre ton architecte sur un bâtiment qui va attirer les autres joueurs. Donc tu vas essayer de te trouver un endroit où ils auront un très bon bonus. Par contre, toi, ce bonus, tu n'en bénéficieras jamais. Si tu vas consommer tes ouvriers là où tu as ton architecte, toi, tu ne bénéficies pas du bonus. Ça, c'est difficile aussi. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà, il faut rajouter à cela les leaders qui permettent d'avoir chacun un bonus très intéressant. Il y en a un qui permet d'avoir un nouvel architecte, il y en a un qui permet de décider où est-ce qu'on va mettre ses cubes ouvriers quand le chantier est fini, qui va décider. Il y en a un qui va permettre de gagner le bonus quand même si je mets ses ouvriers là où il y a l'architecte. Un autre qui permet de placer des pions directement dans une zone d'influence ou bien de marquer plus de points de victoire quand on termine un chantier. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà, donc pour moi, il y a beaucoup d'interactions. L'important, c'est l'ordre des actions aussi dans lesquelles on va les réaliser, évidemment. Sans trop, on peut faire qu'une action. Il faut bien choisir comment on les fait. Il faut bien gérer ses ouvriers. La richesse du jeu vient de toute son interaction et de la façon de marquer les points de victoire qui est assez riche. En fait, je pense qu'il faut, c'est comme toujours, il n'y a pas une stratégie gagnante. Il va falloir s'adapter en fonction de ce que font les autres. Par contre, le jeu, moi, je trouve qu'il est desservi par un matériel. C'est du carton chinois. C'est le carton que j'aime pas. C'est-à-dire un grammage que j'aime pas, une souplesse que j'aime pas, mais ça c'est personnel, et surtout des couleurs très très flashy. Et au niveau de la règle du jeu, j'ai trouvé que la règle est simple, heureusement, elle manque de précision. Par moments, il y a des choses qui sont un petit peu passées sous silence dans la règle. Heureusement, les exemples permettent par contre de lever tout de suite les ambiguïtés.
Parce que des fois, t'as beau avoir des exemples.
Non, justement, là, je me posais des questions et dans les exemples, ça va, ça levait les questions qu'on pouvait avoir. Mais je pense que la règle pourrait gagner effectivement à une petite, à repasser un petit coup, parce que c'est pas, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'est vraiment des petits détails en fait, c'est pas des points importants de la règle. Non, parce que le jeu est simple, hein. Je veux dire, il y a quatre types d'actions possibles, c'est pas non plus énorme. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, c'est tout.
Eh ben, ça me donne pas envie.
Ça donne pas envie, toi.
Non.
Bon. Tu m'as pas écouté.
Non. Mais en fait, j'ai l'impression que, c'est. Peut-être que le thème ne m'attire pas. C'est-à-dire que tu me diras, bon, élever des vaches et des cochons et des sangliers, c'est pas super fun. Surtout au Moyen-Âge où il faut nourrir ta famille. C'est pas non plus.
Non, mais les graphismes sont fun.
Ouais, il y a ça. Et c'est surtout. J'ai l'impression que tu construis quelque chose dans l'Agricola. Dans le Québec, bon, il faudrait que j'en fasse une partie.
Non.
Mais j'ai pas cette impression-là. Quoi.
Non, mais par
quand
contre.
Quand tu l'expliques, après, c'est peut-être toi
oui,
qui l'expliques mal.
Oui, non. T'as pas l'impression que tu participes à la construction de bâtiments, ça, je te rassure. T'es vraiment. T'es simplement en train de voir où est-ce que tu vas pousser tes cubes. Mmh. Mais par contre, c'est très riche.
Parce que dans les piliers de la terre, le jeu, t'avais une petite cathédrale à monter toi-même.
Ouais, mais voilà.
Tu participais à la construction de la partie. Mais...
Ouais. Là, non, c'est pas pareil. Mais par contre, il a une richesse. Tu sais, enfin, c'est toujours pareil. C'est toujours des jeux où t'as toujours un joueur qui va queener, qui va dire ah, mais pourquoi tu fais ça? C'était pas ce que j'avais calculé, machin. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup les jeux où les gens queenent. Ça veut dire que le jeu, il est réussi. Il y a toujours une frustration. Il faut faire des choix. On peut pas tout faire. On peut pas être partout. Et c'est là-dessus qu'est la richesse. Et puis, c'est difficile de dompter le jeu sur les premières parties, ce qui donne cette envie de revenir. Donc Québec, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans. C'est de Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis. C'est édité chez Istari en coédition avec Le Scorpion Masqué. Et c'est vendu pour une quarantaine d'euros.
Non. C'est édité par Le Scorpion Masqué en coédition avec...
C'est pareil. Pour moi, une coédition, ils sont les deux ensemble.
Ouais, enfin, c'est surtout qu'ils se... Enfin, à la base, c'est quand même Le Scorpion Masqué.
D'accord.
Rendons à César ce qui est...
Mais c'est un Istari plus.
Oui, tout à fait.
Mais c'est un format, c'est un gros format de boîte. C'est plus gros que du Hystérie. Ouais. C'est plus gros que du Hystérie classique. Voilà, c'est vendu une quarantaine d'euros.
Il est vraisemblable que nous arrivions à nous mettre d'accord pour couper ce podcast en deux. Qu'il n'y ait pas de...
On vous avoue qu'on s'en doutait avant l'enregistrement quand même.
En fait, ça fait un petit moment qu'on se dit qu'on va atteindre la taille critique et qu'il va falloir qu'on coupe. Et plutôt que vous faire des dossiers, enfin, il y aura toujours des dossiers. Les dossiers vont faire partie de podcasts à part entière, comme on a fait dans les précédentes semaines. Par contre, on met trop de choses. On arrive à 2h30. Bientôt, on fera 3h de podcast. D'abord, c'est ingérable pour nous.
Non, on peut pas 3h parce que de toute façon, on se couche trop tard. Ouais.
Et en plus, on est obligé de couper. Donc, alors vous écouterez ces mots. Normalement, le podcast aura été coupé en deux. Ça, c'est normalement. Maintenant, on ne sait pas comment. Donc, on espère que ça va vous plaire. Faites-nous un retour pour nous dire si on a coupé au bon endroit. Et puis, on en reparlera. On aura certainement une heure et demie d'un côté, puis une heure et demie de l'autre. Maintenant, c'est l'aventure qui commence.
C'est le monteur Olivier qui s'y colle.
Monteur toi-même.
Ah, ça va couper, chérie. Yeah.